avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 900. Et oui, 900e émission de Invino depuis la création en 2004. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu comme d'habitude qui prêche la consommation modérée et responsable avec la découverte des vins inattendus. Trois petits points. Un accord étonnant musique et vin sentimental. L'appellation Vaqueras se rend dans la vallée du Rhône. Et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, deux femmes qui rayonnent matin, midi et soir. Hélène Piau et Florence Corbalan. Bonjour.
Bonjour.
Les vraies belles hôtesses de l'air. Et puis les commandants, les capitaines, deux beaux hommes aussi, Gianmarco Monsellato et Philippe Orbach. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio, retrouve Hélène Piau. Donc, vous êtes chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie d'un garçon formidable, Nicolas Aymeraud, qui est directeur général d'Alliance Loire. Bonjour, Nicolas.
Bonjour à tous.
Alors, racontez-nous un peu l'historique d'Alliance Loire. Tout débute, en tout cas, sur la création en 2002.
À création en 2002, sept caves coopératives ont eu l'excellente idée de créer une structure commerciale pour diffuser leur vin au niveau national et international.
Hélène Piau, est-ce qu'on explique quelles sont les caves coopératives ? Parce
Bien
que
sûr.
Les sept, elles méritent quand même d'être soulignées, non ?
Absolument. D'autant plus que, allez, on va commencer par celle qui fait le plus rêver, les vignobles du paradis. Ça se trouve où, le paradis ?
Alors, le paradis se trouve à Chinon.
Ensuite, le point G.
Comme ça, on sait. Oui. La cave coopérative du Vendômois, ça, on sait aussi. Les terroirs de la Noël, on est en février, c'est où la Noël ?
C'est dans le Muscadet.
La cave de Vouvray, tout va bien. Les vignerons des coteaux romanais.
Là, on est sur une région avec un cépage emblématique, le Sauvignon, en Touraine.
La cave des vins de Bourgueil, tout va bien, on s'y tue. Robert et Marcel à Saint-Cyr.
Au cœur du Champigny.
Alors, on a fait le tour des sept caves, effectivement, que vous représentez. C'est vrai qu'on vous découvre un petit peu, parce qu'il n'y a pas toujours écrit Alliance Loire sur les bouteilles, quelquefois, on y viendra. Mais vous êtes le premier producteur en AOP et fine bulle du Val-de-Loire.
Tout à fait. On a la chance de couvrir l'ensemble de la région et des appellations du Val-de-Loire.
Et cette tendance, Nicolas, des bulles en général et des vôtres en particulier, c'est une tendance lourde, là, ça, on en consomme de plus en plus. Hein.
C'est une tendance très lourde, à la fois à consommation, à l'apéritif, alors que ce soit au niveau régional, oui. National et international. On a la chance de travailler de façon très très importante avec nos créments de Loire aux États-Unis.
Oui, c'est bien ça.
Et avec M. Trump.
Très bien, qu'on embrasse.
Oui, je crois que les exports, c'est environ 20% de votre production.
Tout à fait, et puis c'est en progression depuis ces deux dernières années. Oui.
Bon, alors on croise les doigts pour effectivement qu'il n'y ait pas de taxes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Qui mettent des bâtons dans les roues aussi à vos 372 vignerons et adhérents. Donc on disait quelques chiffres, 3684 hectares de vignobles, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est impressionnant.
Et quels sont les cépages principaux qu'on peut trouver chez vous, Nicolas ?
Alors les cépages, c'est vraiment les cépages identitaires de la Loire. Le Chenin blanc qui est majoritaire chez nous, le Cabernet franc aussi. On a la chance d'avoir des cépages comme le Pinot de Nice, le Gros Lot Gris, la Malvoisie, le Caux. Donc on a un certain nombre de petites pépites très sympathiques.
Le Caux, Philippe Orbach, c'est quoi ? Ça s'écrit C-O-T avec un petit accent ?
C'est exactement.
Chez nous, on dit ça, le Côte.
On l'appelle aussi le Malbec. Ouais. Dans le sud-ouest de la France, on l'appelle également l'Océan.
En Argentine aussi, ça peut être comme ça.
Exactement.
Ah oui, Hélène.
Il y a d'ailleurs, en parlant de Caux, il y a une très jolie cuvée qui est sortie en 2018 qui s'appelle l'Incorruptible, évidemment. Petit jeu de mots.
Un 100%. Hein.
Un 100% Caux, effectivement, et qui s'achète, bien qu'il s'appelle Incorruptible. c'est pas moi qui ai fait la blague, hein, c'est les concepteurs de l'étiquette et du nom. Hein, vous voyez ça avec Nicolas Aymeraud. ça coûte 9,50 € en grande surface, et franchement, c'est très sympa. Et puis l'étiquette est très jolie, ça se voit pas à l'antenne. Mais on a un bulldog déguisé en détective. Débrouillez-vous avec ça. Alors justement, puisqu'on parle des vins qu'on peut trouver en grande distribution ou chez les cavistes, on va parler de vos gammes. Il y en a deux, la gamme initiation pour les découvreurs, la gamme sélection pour les hédonistes. Alors en gamme initiation, on a Terra Ligeria chez les cavistes, Brume de Loire en grande distribution. Racontez-nous la gamme initiation.
La gamme initiation, alors Terra Ligeria, c'est Terre de Loire, donc c'est vraiment la représentation du fruité du Val de Loire. On a souhaité travailler à partir de ces cépages identitaires sur lesquels on a voulu vraiment une très grande intensité aromatique et beaucoup de légèreté en bouche à un prix tout à fait raisonnable. Donc c'est vraiment du pur plaisir, de la gourmandise pour vraiment commencer à s'initier avec les vins de Loire.
On a des vins de cépage, on a des choses comme ça aussi ?
C'est 100% monocépage. Ouais.
D'accord. Et puis, en gamme sélection, une fois qu'on a bien découvert avec initiation, on peut passer à la gamme sélection quand on devient plus grand. Donc là, ça s'appelle Secret de Chais pour la grande distribution et Maître de Chais chez les cavistes. Plus expressif, plus...
Alors, plus de complexité aromatique. Là, on a vraiment fait un très très grand travail pour rechercher toute la complexité aromatique que l'on puisse trouver dans les cépages. Au même titre qu'un grand chef va picorer en fait ses matières premières, on va aller chercher les différentes typologies d'aromatiques. Et puis après aussi au niveau de la bouche, vraiment travailler sur le gras, le volume, la rondeur, mais sans l'agressivité qu'on peut retrouver souvent sur les vins de Loire, l'astringence, l'amertume. Donc on a vraiment un travail
de... Vous allez vous faire des copains chez les vignerons en disant que les vins de Loire, c'est astringent, ça fait du poil aux gencives.
Parfois, ça peut arriver, hein, Philippe Forbach, c'est vrai que peut arriver.
Surtout sur les rouges de Cabernet Franc,
oui,
où on a effectivement cette nature gustative.
Il y a un côté félin, vous voyez ce que je veux dire, Hélène?
Oui, grain. Désolé, hein, Nicolas, on revient à votre gamme sélection pour les hédonistes.
Ah, il est où ce zoo alors? Il est où?
Voilà. Et puis alors, quand on est super expert, il y a encore un niveau au-dessus?
Alors, quand on est super expert, eh bien, on est à la recherche de super parcelles, de jolis domaines. Et puis, on a la chance d'avoir dans notre portefeuille, depuis peu, le Clos Cristal, qui est un clos emblématique, qui est une pépite, qui est la pépite du Val-de-Loire.
Qui se trouve où?
Alors, qui se trouve au cœur de l'appellation Saumur-Champigny.
Et c'est un grand clos?
Et c'est un grand clos de 10 hectares, c'est donc énorme. Clos de murs, avec les murs qui sont classés au monument historique.
C'est avec... bon pour vos exports aux États-Unis, parce que si vous avez des beaux murs, Trump vous fera une réduction sur les droits de douane.
Pourquoi pas? Non, ce qui est incroyable sur ce clos, c'est qu'Antoine Cristal, le fondateur, hein, a eu l'idée incroyable d'implanter des murs au sein du clos. Donc les vignes sont en espalier. Les pieds de vigne sont plantés au nord des murs. Il y a un petit trou qui est fait à différents endroits du mur où les cèpes passent à l'intérieur. Et les rameaux, les grappes et les feuilles sont au sud. Donc les pieds au frais et la tête au soleil.
Oh là,
on a une maturité incroyable, on a une richesse de grains, et ce qui fait qu'on a vraiment un soyeux, une élégance de Champigny.
On peut les garder, ce sont des vins de garde ou pas?
Alors ce sont vraiment des vins de garde, ouais, tout à fait.
On produit essentiellement du rouge dans le clos. Hein.
Dans le clos, c'est Cabernet Franc uniquement.
Mm-hmm. Et alors, donc, où est-ce qu'on le trouve et à quel prix, ce Clos Cristal?
Est-ce qu'on le trouve? Alors, on a repris l'exploitation, il appartient aux Hospices de Saumur, qui nous a confié l'exploitation en 2017, où on a vinifié le premier millésime, qui sera commercialisé à la fin de ce semestre. Donc on
à la
pas
fin 2020, là, maintenant
fin du semestre, du premier semestre 2020.
Bon, allez, on va se précipiter.
Allez, encore 3 mois.
Merci beaucoup, Hélène. Merci également à vous, Nicolas. Une vidéo sur Radio, on retrouve à présent Gianmarco Moncelato, qu'on n'a pas eu depuis trop longtemps. Notre ami avocat associé de l'Ouate, hein, et grand amateur de vin. Vous avez décidé aujourd'hui de sortir les sentiers battus, là. Vous faites votre rebelle, hein, comme d'habitude, quoi.
Ben voilà, je suis à l'âge de la rébellion, et puis... On entame une nouvelle décennie, donc on a passé le mois des vœux, c'est fini, mais on est quand même toujours dans une nouvelle décennie, et je pense que la décennie passée était la décennie où le vin est rentré dans l'ère du marketing, l'ère des marques, les prix ont fortement augmenté. C'est devenu un produit de statut, ce qui est très bien pour l'économie française, hein, parce qu'on en a largement profité, on est très contents. Mais on rentre dans une nouvelle ère où je pense que le consommateur partout sur la planète va rechercher plus d'authenticité, plus de plaisir, peut-être plus de simplicité. Donc j'ai voulu surprendre. J'ai cherché à prendre 3 vins qui, à mon avis, les auditeurs ne connaissent pas, mais qui leur procureront beaucoup de plaisir à des prix très, très, très raisonnables.
Allez, le premier.
Le premier, bon, on va commencer par se faire plaisir, aller dans la région viticole la plus australe du monde, en terre de feu, en Patagonie, donc en Argentine, hein, la province de Neuquén. La maison San Patricio del Chanar nous a produit un vin fascinant qu'ils appellent Fin del Mundo, la fin du monde, hein, c'est assez approprié. C'est un Malbec. Mais c'est un Malbec qui est très soyeux, équilibré, rond, je dirais plus fin et plus agréable que les Malbecs de Mendoza, donc un peu plus au nord.
Donc c'est un vin rouge.
C'est un vin rouge, absolument. Et alors évidemment, le fait de boire un vin du bout du monde, ça ajoute au plaisir de l'expérience. Mais c'est vraiment un bon vin à déguster, qu'on trouve à moins de 20 euros, donc raisonnable.
Ah super, ça. On peut le trouver en France, selon vous?
On peut le trouver en France, soit par internet, soit dans des cavistes spécialisés.
Ah génial,
en
ça. Et alors, vous le conseillez avec quoi? Avec un plat en sauce, une viande,
une bonne viande argentine, une bonne viande française, une bonne viande du Limousin, c'est parfait.
Deuxième coup de cœur du bout du monde.
Alors là, je viens plus chez moi, hein, donc dans les Pouilles. Dans le Salento, qui, comme chacun sait chez moi, est la région la plus ancienne à faire du vin. On dit tout ça en Italie, donc on peut le dire chez nous aussi. Hein. Et donc là, on va prendre les Pouilles. C'est d'abord un cépage. Et le cépage, c'est le Nero Amaro. Alors, le Nemo Amaro, c'est effectivement un des plus vieux cépages, puisqu'il vient de la Grèce, le Xinomaro, et en dialecte des Pouilles, ça veut dire noir amer. Noir parce que la robe est très très sombre, et amer parce que l'attaque est un petit peu amère, ce qui compense du coup le fruité, et ce qui donne un bel équilibre.
Et des vins de garde aussi qui peuvent
Alors, c'est des vins de garde, les vignes sont centenaires. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est le vin anti-marketing. La bouteille, il n'y a rien, il y a juste marqué 7200. C'est le nom du vin, 7200. Alors 7200, c'est le code postal de Brindisi, qui est la capitale des Pouilles. Hein. Donc aucun marketing, mais c'est un vin qui a gagné une demi-douzaine de médailles, dont la médaille d'or à Bruxelles. La médaille d'or en Italie, à Vinitaly. C'est la cantina Risveglio qui le fait. Très beau, très stable. Vigne centenaire, donc profond, complexe. Vraiment le vin parfait pour boire en amoureux.
En amoureux, quoi. Ouais.
Et pour là Saint-Valentin, encore, on est en moins de 20 euros, encore une fois. Pour des vins centenaires, ça vaut le coup. Et donc, à déguster. Là encore, on va le trouver en France ou par Internet. Et ça se boit très bien, vraiment à déguster. Pour avoir l'expérience des vins du sud de l'Europe, c'est parfait.
Et le troisième, alors ?
Le troisième, là, on est un peu plus sophistiqué, mais à boire une fois pour tester, voire plus pour les amateurs. Un vin de l'Etna. Alors attention, sur l'Etna, c'est devenu à la mode, donc on a beaucoup de choses et pas que des bonnes, faut pas se mentir. Mais là, on est dans le vrai vin sicilien, avec des vignes qui datent d'avant le phylloxéra. Et c'est la maison Don Pepino, que les amateurs connaissent bien, parce que il applique la culture bourguignonne au vin de l'Etna, et ça donne quelque chose de très intéressant. Donc là, le cépage, on est classiquement sur quasiment que du Nero Mascalese, avec une petite touche de Cappuccio, mais c'est essentiellement du Nero. Donc là, on a un vin qui est le vin Don Pepino, donc l'Etna Rosso, vigne de préphylloxéra. C'est sur le fruit sec, la complexité, c'est très profond. On dirait que c'est du Bourgogne, mais du Bourgogne, il y a beaucoup plus de soleil. Donc plus riche, quand même plus sucré que le Bourgogne. Mais philosophie bourguignonne, là, on est plus cher. Hein,
combien
là, il faut compter 50 euros quand même hein, sur la bouteille.
C'est une très grande bouteille, selon vous. Hein,
c'est une très grande bouteille, à ouvrir quand même une heure avant la dégustation, parce qu'il faut qu'il respire.
Et on peut encore l'attendre ?
Alors, elle va s'attendre très longtemps. Elle va s'attendre très longtemps, 10-15 ans. Mais vous pouvez la boire tout de suite. Ou vous pouvez l'attendre 10-15 ans. Bon, après 15 ans, c'est le risque des bouchons, comme chacun sait le bouchon.
Et c'est en amoureux aussi, ou avec votre belle-mère ?
Alors, de 15 ans, c'est avec sa quatrième femme.
Ça dépend de la relation que vous avez avec votre belle-mère, hein, mais c'est plutôt avec des gens avec qui vous avez passé un bon moment, de convivialité, si vous voulez.
Ce ne sera pas ma belle-mère, alors. Allez, merci
beaucoup, Jeanne Marco. Bon, c'est la tour. On va retrouver sur le site hein, vos différentes bonnes adresses. Merci à tous. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Ville Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau, puis le Vino Quiz.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La semaine dernière, nous voulions savoir quel est le nom du dernier livre de François Martin. Réponse A, le guide des grands crus classés de Champagne. Réponse B, le guide des petits crus classés de Bordeaux. Ou la réponse C, le guide des grands crus classés de Bordeaux. Et la bonne réponse était la C.
La C, cette semaine, Hélène.
Cette semaine, nous voulons savoir de quel groupe de producteurs Nicolas Aimereau est-il l'excellent directeur général. Réponse A, Alliance Loire. Réponse B, Alliance Vendée. Réponse C, Alliance Mariage. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin Spiritueux et marions-nous dans l'année, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Dorcel. Invino Sud Radio retrouve maintenant Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, pour un accord musique et vin sentimental.
Mais
on reste dans l'amour aujourd'hui.
Mais tout à fait. Aujourd'hui, je vous amène d'ailleurs en Argentine, le pays du tango, mais pas
le
que.
Le pays de Jean-Marc Montalato voilà.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
Hein.
Mais... On en parlait. C'est aussi depuis ces dernières années le pays où de jeunes œnologues talentueux ne cessent d'évoluer et de nous étonner. Alejandro Virgil, je ne sais pas si je le prononce bien.
Hein. Alejandro Virgil.
Alejandro Virgil. Alejandro. Est un des œnologues stars du pays. On l'appelle l'Elvis Presley des vins parce qu'il adore le rock
Elvis
et le
Presley,
jazz.
Presley, c'est très très moderne ça. C'est point com ça, non ?
Non, mais c'est parce qu'il est passionné de rock. C'est un être passionné, donc qui aime la littérature, la cuisine, la musique. C'est un créatif, un être tout sauf ordinaire. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs œnologues du monde. Alors, entre parenthèses, il a fait ses études dans le sud de la France. Il est aussi le vinificateur en chef de la Bodega Catena Zapata et l'ancien président de la division des sols, l'Argentina's Wine Institute. Et sur cette bodega, il rencontre l'historienne Adriana Catena, qui est d'origine italienne, qui est la fille du grand Nicola Catena Zapata. Et là, c'est le coup de foudre. Ensemble, ils montent le projet Bodegas Aleana en 2006, d'où proviennent les vins d'El Enemigo. Ce sont des vins qui sont produits à Piedemonte, al Sur, situé sur les contreforts sud de l'Urrandecoyo, à Mendoza. Il faut savoir que la région viticole de Mendoza est située en haute altitude et nichée sur les contreforts de la cordillère des Andes. Toutes les conditions sont réunies pour faire d'excellents vins. Et d'ailleurs, Adriana et Alejandro font d'excellents Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, etc. Donc, alors, vous me direz, pourquoi ce nom, El Enemigo ? En espagnol, ça signifie l'ennemi. Bon, c'était pas très difficile à deviner. Et ça fait référence à la bataille intérieure que nous nous livrons contre nous-mêmes et qui contribue à forger notre personnalité. Alors, je suis tombée amoureuse de El Enemigo Malbec 2015 lors d'une dégustation proposée par Florent Barrère que nous avions reçu un jour, qui est agent. Et pour la petite histoire, en 1936, le Malbec et le petit verre d'eau représentaient les cépages les plus cultivés en Argentine et leur assemblage était considéré comme le summum en matière de raffinement et de potentiel de vieillissement. Ici, nous avons un assemblage de Malbec en majorité, de Cabernet Franc et de petit verre d'eau. Ce qui donne un vin riche, concentré et en même temps un vin avec beaucoup de fraîcheur. Il offre des arômes de fruits noirs, de cerises, de baies noires. Et quand on trempe ses lèvres, on sent tout de suite qu'on a affaire à un vin corsé aux saveurs d'épices, de mûres, de cerises noires, de poivre. On a l'agréable surprise de sentir également un léger caractère floral. La finale est élégante et longue. C'est un vin étiré, profond, envoûtant, qui se distingue par sa structure, mais également par une fraîcheur étonnante. Il est très agréable. Et la philosophie d'Alejandro Viril est claire. C'est élaborer des vins comme il était avant, c'est-à-dire des vins frais, qui puissent être bu avec facilité. Il apprécie particulièrement le Cabernet Franc, qui a tendance à moins dominer le caractère du vin comme le ferait le Cabernet Sauvignon. Et il dit que le vin doit exprimer son origine, être complexe mais léger. Il doit ouvrir l'esprit, activer souvenirs et sensations. Et donc, au niveau de la vinification, on travaille aussi dans ce sens. Les cuves en ciment prennent le pas sur les cuves en acier et les vieux tonneaux sur les bois neufs. Donc, je vous propose un accord tout en profondeur, en rondeur, en étirement, avec d'un côté El Enemigo Malbec 2015 et de l'autre Cry Me a River, qui est une chanson populaire des États-Unis écrite par Arthur Hamilton. C'est une chanson sentimentale, presque déchirante, devenue un standard de jazz qui a été enregistré pour la première fois en 1955, puis interprétée par de nombreux artistes comme Ella Fitzgerald. Elle raconte l'histoire d'une femme qui a pleuré toutes les larmes de son corps pour un homme qui l'a quittée.
Ça, c'est pas bien, ça. Hein.
Et maintenant.
Non, mais c'est pas bien,
attention,
ça, non.
Attention.
Jean-Marc, vous en pensez quoi en tant
qu'avocat?
Mais
non, c'est pas bien.
C'est inacceptable.
Inacceptable.
Bah, lui, il s'en fout, il plaide, hein, je veux dire.
Après, moi, j'ai prêté serment, c'est autre chose.
Ah ben, ça va vous intéresser parce qu'il revient vers elle, figurez-vous. Alors, elle lui dit.
Ça l'intéresse moins. Bah,
c'est parce qu'il fait le retour aussi.
Donc, tu dis que tu m'aimes, tu reviens, eh bien, prouve-le. Ça donne. Ça, je vais chanter un petit extrait. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Tell me love was to be, and tell me you were three with me, and no. Say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cry a river over you.
Bravo, Florence. Hein. Vous êtes bien à bord d'une vidéo Sud Radio. Il n'y a pas d'erreur. On n'est pas sur autre chose. Mais c'est très beau, c'est très joli.
Le Love Music, bien sûr.
Exactement. qu'on salue. Quoi,
le soir à 20h sur Sud Radio.
À une vidéo, c'est un concurrent sévère côté musical. Quoi, c'est... Merci, Florence. Bravo. C'est très sympa. Philippe Forbach, c'est à vous. Alors, vous êtes pour l'instant et à vie un meilleur sommelier du monde. Ça, c'est bien d'être à vie. Nous, on aime bien les gens à vie. Alors, direction la vallée du Rhône. Et sans vous faire chanter, vous allez tout nous dire sur cette appellation. l'appellation Vaqueras.
Vaqueras.
Les dentelles de Montmirail.
C'est magnifique.
Florence et Hélène, comme ça, là, sur une peau de bête. C'est génial, non?
Exactement.
Non, mais je rêve. À quel moment il en a été question?
De temps en temps, il fait frais, donc il faut faire attention à l'épaisseur de la peau. Voilà. Et l'appellation Vaqueras, c'est écrit V-A-C-Q-E-Y-R-A-S. C'est vrai que souvent, sur les cartes de vin, on oublie parfois le Y. Bon, il faut dire que ça vient des Romains, donc peut-être le Grec qui passe à la trappe.
Oui, enfin, voilà. Il n'y a pas d'Italien ici, ça va quoi.
Non, mais ça veut dire qu'il y a un moins de trappiste qui n'a pas bu avec modération, parce que le Grec était une erreur de transcription, c'était un U à la base.
Exactement. Vaqueras. Voilà. Mais c'est le Queras finalement, cher à nos amis montagnards et aux alpins, avec le VAC devant. C'est à côté de l'appellation Gigondas, qui est une appellation aussi très connue, et à quelques enclabures de Baume de Venise, de Vaison-la-Romaine, de Sablé, de Séguré, enfin une très jolie partie
superbe, hein.
De ce département du Vaucluse. Dans le fameux Comtat Venaissin, qui est effectivement une réminiscence de l'époque papale avignonnaise. On produit sur cette appellation les trois couleurs, ce qui est assez rare pour les crus du sud de la vallée du Rhône. Mis à part le Lirac sur la partie gardoise, c'est la seule qui a droit effectivement aux trois couleurs. Parce que Châtenay, par exemple, a droit à faire juste du rouge essentiellement et un peu de blanc. Et Gigondas voisin produit essentiellement du rouge et un peu de rosé. Donc les trois couleurs. Je vais vous lire le texte pour les cépages. C'est assez intéressant la démarche de l'INAO. Pour les vins rouges, le cépage principal reste le Grenache, ce grand cépage méditerranéen par excellence qui donne de la suavité, de la générosité, des parfums de cerises, de fruits noirs assez denses, suivi de la Syrah, cépage du nord de la vallée du Rhône, et du Mourvèdre, avec au moins 20%. Au total, Grenache, Syrah et Mourvèdre doivent représenter au minimum 90% de l'encépagement. J'espère que tout le monde suit.
Oui.
Pas d'interrogation après. D'accord.
Les
autres cépages
du
Rhône sont autorisés donc à la hauteur de 10% au maximum.
D'accord.
Voilà. En résumé, c'est quand même du Grenache de base, avec en complément effectivement de Syrah et de Mourvèdre, comme souvent le fameux GSM, mémotechnique, Grenache, Syrah, Mourvèdre, effectivement, qu'on trouve dans cette appellation. Pour les blancs, les cépages utilisés sont le Grenache blanc, qui est voilà, un peu la référence, mais de plus en plus la clairette, qui donne vraiment beaucoup d'élégance, un côté floral et fruité agréable. Le bourboulin, qui apporte une pointe de fraîcheur bienveillante et en tout cas équilibrante. La roussanne aussi, et la marsanne, qui sont deux grands cépages du nord de la vallée du Rhône, tout comme le Viognier, autorisé dans l'appellation, et qui donne une sorte d'invitation à découvrir le nord via le sud. C'est un petit peu ce résumé-là, puisqu'on a un mix de cépages traditionnellement sudistes et d'autres qui sont plutôt nordiques de la vallée du Rhône. Le Viognier faisant les beaux jours de l'appellation Condrieu et Château-Grillet également depuis très longtemps. Le melting pot de tout ça donne finalement des blancs qui sont souvent très aromatiques, très séducteurs, qui sont d'excellents vins apéritifs. Franchement, c'est juste génial. J'adore des petites crevettes sautées aux épices avec quelques petits légumes légèrement croquants. Un verre de Vaqueras blanc, c'est juste un petit mariage extrêmement heureux. Quant aux rouges,
je donnais faim.
En termes de gastronomie, les rouges de Vaqueras, ce sont des vins assez denses, hein, un peu généreux. Je parlais tout à l'heure des parfums de fruits rouges, de fruits noirs, etc., et de poivrés. Ça va très bien avec tout ce qui est agneau, tout ce qui est viande de bœuf, les viandes un petit peu travaillées en sauce en cette saison encore hivernale. Mais après, sur les viandes grillées, les viandes juste rôties au jus, dans le reste de l'année, ça va merveilleusement bien également. Alors l'appellation Vaqueras, ça existe depuis appellation d'origine contrôlée depuis 1990.
Donc c'est très récent,
c'est
ça.
C'est finalement assez récent, même si on fait du vin dans cette région, fait de sols alluvionnaires et de terrasses glaciaires. On est un peu sur les terrasses dues à une époque alpine, quasiment glaciaire, donc dans ce secteur-là.
Les couleurs des vins, vous l'avez dit déjà.
Les trois couleurs.
Hein.
Blanc, rouge, rosé. L'appellation couvre à peu près 1500 hectares. Il y a quelques très jolis domaines dont j'ai envie de parler, le domaine Santaduc, un peu mon coup de cœur historique, mais Montirius par exemple, ou Montvac, qui travaille en bio et en biodynamie, sont des beaux domaines de référence. Le domaine de Montmirail, cher à la famille Bouteiller depuis très longtemps, qui porte le nom à la fois du comte de Montmirail, célèbre au cinéma.
Ah mais bien sûr.
Nombre d'années. Mais surtout au célèbre dentelle que vous avez évoqué tout à l'heure, mon cher Alain. Le Clos des Cazaux, également très beau domaine. Le sang des cailloux, c'est quand même pas mal, ça.
Ah, c'est délicieux. Le vin est exceptionnel.
C'est à la fois un très bon
vin.
C'est
assez raisonnable, vous voulez prix, Philippe, encore, non?
Le château du Trignon, et puis on salue Alain Jomme aussi, qui produit vraiment d'excellents vins. Oui, c'est relativement raisonnable en vin, en prix, pardon. À partir de, allez, entre 10 et 15 euros, beaucoup de cuvées et quelques cuvées particulières autour de 20-30 euros.
Merci beaucoup Philippe Orbach, merci également à vous Hélène Piau, Florence Corbalan et Gianmarco Moncelato. Merci également à Angéline et puis Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain dimanche, donc, pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisé chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera de plein de choses, de la tempérance, de Tursan, du rugby, du vin, de start-up. Bref, excellent programme. D'ici là, déjeuner, bon déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.